J'aimerais que nous puissions faire une lecture qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, et on va commencer à partir du verset 19. Vous y êtes ? Voilà ce qui est écrit. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je crois que nous connaissons tous ces textes, mais il est bon que nous puissions, peut-être ce matin, les lire, les redécouvrir, en prenant attention à la pensée de Dieu, à comment le Saint-Esprit a conduit pour que ça soit écrit de telle manière dans la parole de Dieu. Je dis souvent à l'église de Condon que aujourd'hui, quelquefois, on est perturbé dans la lecture de la parole parce que il y a des chapitres, il y a des versets, et maintenant, dans beaucoup de Bibles, dans ma Bible c'est ainsi, il y a des titres qui viennent couper quelques paragraphes. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, qu'à l'origine, il y a là une pensée de Dieu. Cet enseignement, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas un enseignement que Jésus a voulu réserver uniquement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas un enseignement pour l'évangélisation, mais n'oubliez pas que c'est pour ses disciples. C'est pour ceux qui connaissent Dieu. N'oublions pas qu'il y a une évolution, on pourrait dire presque logique, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez aussi bien que moi. Jésus ne dit pas les choses au hasard. Il ne passe pas d'un sujet à un autre. Si le Saint-Esprit a voulu nous consigner ces paroles extraordinaires dans ce sens, dans cette direction, c'est parce qu'au travers de tout ce que nous avons lu, il y a des vérités spirituelles à comprendre, à saisir, mais pas seulement avec notre intelligence, parce que des cerveaux à plusieurs étages, on en a beaucoup, mais à les saisir avec notre cœur pour rentrer dans cette vie et dans cette marche de foi. Alors on pourrait presque poser une première question à la lecture de ce texte. Est-ce que Christ est mon trésor ? Est-ce que Jésus-Christ est votre trésor ? Ne répondez pas, hein. Bien sûr, chacun pour sa part, on est capable de répondre. Je pense que si on prenait le temps ce matin de partager ensemble, de se poser cette question, peut-être en aparté, tous ici, on répondrait oui, bien sûr. Je pense, j'espère. En tout cas, ceux qui se sont levés pour prendre la Sainte-Seine, je pense que vous pouvez répondre oui à cela. Jésus, c'est mon trésor. Maintenant, on s'aperçoit, et bien sûr, on va le voir ensemble, que le fait de dire « Jésus est mon trésor » amène dans notre vie, immanquablement, une puissance, amène dans notre vie, immanquablement, des réalités spirituelles qui ne font pas partie de ce que nos yeux voient et de ce que mon corps ressent, mais de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est toujours ça l'important. Qu'est-ce que Dieu me dit? Et ce qu'il me dit, comment est-ce que je peux me l'approprier pour que ça devienne dans ma vie esprit et vie, c'est-à-dire puissance de Dieu? Alors, on avance un petit peu quand même ce matin. Vous avez vu que le Seigneur Jésus va parler et va mettre un petit peu en opposition deux sortes de trésors. Le trésor qu'il y a sur la terre et le trésor dans le ciel. Et on définira tout à l'heure qu'est-ce que c'est que finalement rechercher, s'amasser un trésor dans le ciel. Mais on comprend parfaitement ce verset qui vient comme sceller cet enseignement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire qu'il ne peut pas en être différent. Différemment. Ça veut dire que dans ma vie, ce que je chéris, ce que j'aime le plus, c'est ce qui va m'amener à porter mes regards dessus, c'est ce qui va me permettre de servir ce que j'aime le plus. Si j'aime le plus les trésors sur la terre, immanquablement, je vais servir ces trésors. Si j'aime Christ, si Christ est mon trésor, immanquablement, je vais servir Jésus-Christ. Alors bien évidemment, parce que j'en ai entendu plusieurs, vous l'avez pensé, je ne suis pas en train de dire qu'on est contre les biens matériels, la propriété, et ainsi de suite. Je me souviens de cette sœur avec son mari, ils se sont convertis, préparation au baptême, ils étaient un petit peu embarrassés. Voilà, pasteur, maintenant qu'on est à Jésus-Christ, vous savez, la maison, elle nous appartient, est-ce qu'il faut qu'on vende la maison? Alors, il faut vendre la maison? Ben non! Ben non, merci Seigneur si vous êtes propriétaire de la maison. Merci Seigneur pour ce qu'il nous donne ici-bas. Mais ces textes, je fais un petit détour, nous amènent à comprendre que l'enfant de Dieu n'est pas tenu par ce qu'il a ici-bas, de telle sorte que la sécurité, ma sécurité, notre sécurité, frères et sœurs, ne dépend pas des biens matériels, ne dépend pas de ce qu'on peut amasser ici-bas, mais notre sécurité, notre bien-être, notre manière d'être en tant qu'enfant de Dieu ne dépend que d'une seule chose, frères et sœurs, de Christ. De Christ crucifié, de Christ ressuscité. Si je suis en bonne santé, frères et sœurs, merci Seigneur pour le pays dans lequel nous sommes. On a accès aux soins, on a accès, on peut se faire opérer, on peut se faire prendre en charge, mais laissez-moi vous dire que malgré tout ce que nous avons ici-bas, malgré tous les médecins, toute la technologie, ce qui prime au-delà de tout, c'est que Jésus nous veut debout, Jésus fait en sorte que je sois en bonne santé, si je suis en bonne santé, et si je passe par la maladie, c'est que Jésus, au travers de la maladie, veut me façonner pour que je puisse grandir avec lui. Je fais exprès, en fait, de prendre le temps pour partager sur ça, parce que c'est pas le thème principal de mon message. Mais vous allez voir que tout est lié. Tout est lié. De telle sorte que Jésus va jusqu'à dire que on ne peut pas servir de maître. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Si mon trésor, c'est ce qu'il y a sur la terre, mon maître, ce sera ça. Si mon trésor, c'est Christ, mon maître, ce sera Christ. Et Jésus prend le temps de répéter ces vérités. On ne peut pas servir de maître, car ou on va haïr l'un et aimer l'autre, ou on va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. Ça veut dire, frères et sœurs, que dans notre vie, il ne peut pas y avoir de milieu. Un peu ailleurs, un peu à l'extérieur, un peu la mentalité du monde, et un peu Christ, un peu l'Église. Ça ne peut pas fonctionner, vous le savez aussi bien que moi. Et les jeunes, vous le savez, je pense qu'on vous le répète inlassablement. Le monde vous ment, Le monde dit des mensonges, ils vous font croire. Le monde fait croire que c'est en possédant, c'est en ayant ce que nos yeux convoitent qu'on peut être heureux, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. On ne peut pas servir de maître. Ce que je sers, c'est ce à quoi je suis attaché, frères et sœurs. Et si on est tous d'accord pour dire que Christ est notre trésor, alors mon unique but dans ma vie, ce que je suis, c'est d'être attaché à Christ, et c'est cela qui me permet d'avancer, de grandir, pour servir Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, vous savez, si vous avez une concordance, vous pouvez regarder chez vous, à la maison, il est remarquable de voir toutes les fois où, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu dit de veiller sur notre cœur, de veiller sur ce qui rentre dans notre cœur, de veiller sur comment est-ce qu'on nourrit notre âme, et par la même occasion, ce que la Bible appelle notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On connaît ces versets. Un autre texte, et après on passe à ce qui nous intéresse particulièrement ce matin. C'est dans le Deutéronome. C'est déjà Dieu qui dit ça dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Il va dire « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Il y a là un devoir de mémoire, un devoir de s'entretenir par des cantiques, des choses spirituelles, bien évidemment, afin que ce que nous avons reçu ne sorte pas de notre cœur. Afin que ce que nous avons reçu ne s'effrite pas, ne s'en va pas, ne s'effondre pas, mais puisse toujours créer en nous, frères et sœurs, cette puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissance. Et si je garde la parole de Dieu avec foi, alors je sais avec assurance, avec certitude, que je vais pouvoir manifester cette puissance de Dieu dans ma propre vie. Ça ne peut pas être autrement. Ce qui nous amène maintenant à ce qui nous intéresse particulièrement. Pourquoi j'ai voulu partager tout cela? Parce que bien souvent, lorsqu'on parle de l'inquiétude, bien évidemment, il y a ce premier texte de Matthieu chapitre 6 qui nous vient en tête. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais on s'aperçoit que l'enseignement est un peu plus profond que cela. Il ne s'agit pas simplement de dire « il ne faut pas que je m'inquiète ». Jésus me dit de ne pas m'inquiéter, alors je ne m'inquiète pas. Ce n'est pas le fait de se répéter inlassablement cette réalité qui va faire que je ne m'inquiète pas. Mais on s'aperçoit que, comme nous l'avons partagé en introduction, que ce que Jésus dit juste avant est lié directement au fait de ne pas s'inquiéter. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus nous parle de et nous pose cette question ce matin, mais où est ton trésor? On ne l'a pas partagé parce que ça prendrait trop de temps, mais est-ce que ton œil est en bon état? Est-ce que tu regardes toujours par la clarté de Dieu pour voir sa lumière? Est-ce que dans ta vie, tu t'attaches véritablement à ce que Dieu dit et pas uniquement à tes pensées? Il est remarquable de rencontrer dans les entretiens beaucoup de frères et sœurs qui vous disent des choses qu'ils pensent, leur propre conclusion, qui est en fait l'opposé de ce que la parole de Dieu dit. Mais ce que Dieu veut nous amener dans notre vie, c'est à croire ce qu'il nous dit, parce que je suis sûr, frères et sœurs, que quand Jésus nous a laissé cet enseignement, c'est parce qu'il nous aimait. Et il voulait nous encourager, parce qu'il sait comment nous sommes constitués. Il sait qu'on a tendance à s'inquiéter. Il sait que les mamans vont avoir tendance à s'inquiéter pour leurs enfants. C'est pas vrai, les mamans? Eh oui. Eh oui. Il sait que dans notre vie, nous sommes sans cesse confrontés à un propre choix. Le choix de suivre ce que Christ a dit. Le choix de suivre sa parole. Ou le choix de suivre ce que moi je ressens. Le choix de suivre ce que mes yeux regardent, voient. Le choix de suivre mes propres pensées. Et bien souvent, il y a une fracture, un schisme qui se manifeste dans les vies chrétiennes. Il y a un manque de joie, bien souvent, et on ne sait pas pourquoi. Il y a un abattement, on ne sait pas pourquoi. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer et de résumer tout cela. Mais quelquefois, il est bon de se poser cette question. Mais est-ce que je ce que je pense, est-ce que ce que je crois vient de la parole de Dieu? Si on est tous capables de dire que Jésus est notre trésor, je vais le dire comme ça, parce que comme ça, vous allez voir où je vais en venir. Si tous ce matin, frères et sœurs, on peut dire « Oui, Jésus est mon trésor », alors obligatoirement, on ne va pas s'inquiéter. C'est pas possible. C'est impossible, frères et sœurs, parce que Jésus nous amène dans cette réalité spirituelle. Alors, je suis pas en train de dire que l'inquiétude est un péché, parce qu'on a vite fait de basculer dans un déséquilibre. Ce que je suis en train de partager avec vous, c'est qu'il y a une différence entre recevoir une mauvaise nouvelle et s'inquiéter, apprendre qu'on est malade, apprendre que telle personne a une maladie incurable, apprendre que telle personne a décroché de l'église, que mes propres enfants, que telle personne que j'ai connue a décroché. On passe par l'inquiétude, mais il y a une différence entre traverser l'inquiétude et s'établir dans l'inquiétude. Il y a une différence entre « je m'inquiète, mais je sais que, parce que je l'ai lu juste avant, si mes yeux sont fixés sur la lumière, alors mon être intérieur va être illuminé. Et si mon être intérieur est illuminé, alors je vais faire face à l'inquiétude, non selon mes propres capacités, parce que mes capacités ne peuvent pas tenir, mais en comptant sur la grâce du Seigneur et sur les capacités de Dieu. » Et c'est ça qui nous amène sur ce chemin de victoire, frères et sœurs. Beaucoup trop de chrétiens, beaucoup trop de foi, et bien sûr dans ma propre vie je l'ai expérimenté, c'est pour cela que je peux en parler librement ce matin. Beaucoup trop de foi, on ne comprend pas ce que Jésus nous dit, et on dit « Seigneur, pourtant je t'obéis, je fais ce que tu dis. » Sauf que Jésus nous amène. Et si vous voulez, l'expression qui nous amène à comprendre la cause à effet entre le fait d'accepter d'avoir Jésus-Christ comme notre trésor ultime et le fait de ne pas nous inquiéter, c'est le début de ce verset 25 du chapitre 6, lorsque Jésus partage sur le trésor, sur la lumière, Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir de maître, et de suite après, il nous dit « c'est pourquoi je vous le dis ». C'est pourquoi une cause à effet, sous-entendu, si je suis votre trésor, si vous me regardez à chaque situation, si vous avez conscience que vous êtes attaché à moi et que vous me servez, alors c'est pourquoi vous ne pouvez pas être inquiet. Je le répète, restez dans l'inquiétude. Ça peut pas être trop autrement. Je pense d'ailleurs que c'est presque un rappel, parce que on l'a tous expérimenté, des moments où l'inquiétude vient au niveau financier, par exemple. Est-ce qu'on peut être inquiet au niveau financier? Des fois, c'est pas évident, hein. On n'a pas tous des châteaux en Espagne. Enfin, nous, dans le Gers, on n'en a pas. Mais on peut s'inquiéter au niveau financier. Je raconte souvent ce témoignage parce que c'est un témoignage marquant. Il y avait un couple qui avait de graves problèmes d'argent, et la maman, elle faisait la vaisselle, elle ruminait cela dans sa tête. Vous savez comment font les sœurs quand elles font le ménage, elles sont en train de régler tous les problèmes de la terre. Et là, elle faisait la vaisselle et elle se disait, mais comment on va faire pour payer telle et telle facture? Comment on va faire? Et la petite fille qui rentre, 5 ans, 6 ans, je sais plus quel âge elle avait. Sa petite fille rentre, mais maman, c'est qui le plus fort? C'est Jésus ou c'est la banque? Mais elle savait pas, la petite. Elle savait pas. Alors la maman, elle arrête de faire la vaisselle, elle se tourne, elle dit, mais c'est Jésus. Et puis quand même, quand elle a continué à faire la vaisselle, elle s'est dit, mais c'est vrai, c'est Jésus. Jésus le sait. Où on s'attache à Dieu, frères et sœurs? Et si on s'attache à Dieu, on est introduit dans cette dimension surnaturelle où Dieu peut prendre soin de nous parce que Dieu répond à notre foi. Dieu répond à notre confiance. Ou on méprise Dieu parce que quand même, vous l'avez lu avec moi, si Jésus prend le temps juste avant de parler de l'inquiétude en nous disant « on ne peut pas servir de maître », ça nous amène à considérer quel est le fondement de ma vie spirituelle. Sur quoi est-ce que j'ai construit? Si c'est sur Christ, alors je peux être inébranlable, parce que c'est lui qui me tient, et je sais que le servir, c'est dans la foi, dans l'obéissance, bien évidemment, pas d'une manière légaliste. Alors si je le sers comme lui le veut, ça m'introduit sur ce fondement qui est solide. Je peux pas servir autre chose que Christ. S'il y a un mélange dans ma vie, alors les fondations ne vont pas être solides comme elles devraient. Vous avez vu que dans ce texte, quand même, qui est un texte important, pour l'inquiétude, il y en a d'autres dans la parole de Dieu, mais c'est un enseignement qui est du Seigneur Jésus lui-même, qui aborde des questions primordiales que nous pouvons tous rencontrer dans notre quotidien, et Jésus va partager sur des besoins qui sont basiques. Il va parler du vêtement, de la nourriture, du besoin de boire. C'est des choses qui sont simples, qui sont légitimes. Mais ça vous a jamais questionné, vous? Comment ça se fait que Jésus parle de ça dans ce passage? Comment ça se fait? Il aurait pu aborder d'autres choses. Le choix d'un conjoint. Nous, en tant que pasteur, ça aurait été bien que, s'il nous avait demandé l'avis, on aurait dit, ben voilà, Seigneur, tu peux parler du choix d'un conjoint. Ne vous inquiétez pas pour le choix d'un conjoint, pour les jeunes célibataires et les moins jeunes d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Mais Jésus n'a pas dit ça. Pour le travail. Est-ce que c'est bien de prier, de réfléchir professionnellement? Ben oui. Mais Jésus aurait pu en parler, là. Mais il va aborder que des choses simples. Que des choses simples. Parce que derrière cela, je pense, en tout cas c'est ma conclusion, c'est que Jésus veut nous amener à comment nous percevons la vie chrétienne et nos propres besoins. Parce que finalement, c'est légitime de demander tout cela. Est-ce que c'est normal de vouloir avoir une maison, de vouloir être vêtu, de vouloir manger? Est-ce que c'est normal? Eh oui, c'est normal. Mais vous voyez, là, il y a notre perception de la vie chrétienne, parce que ce qui est normal dans la vie chrétienne peut devenir un piège pour nous si on ne prend pas garde. Parce que même ce qui est normal, même ce qui est légitime dans notre vie, même ce qui fait partie du bon sens humain, on pourrait presque le dire, Jésus veut nous amener à ne pas être fixés dessus. Parce que ce qui est normal, ce qui est légitime, si on commence à se fixer dessus, si on commence à s'inquiéter sur comment je vais faire pour me nourrir, par exemple, c'est ce qui est écrit, c'est des choses basiques, je le répète, mais si on est fixé sur cela, alors on se décroche de notre confiance en Dieu. Alors on n'est plus dans cette confiance, parce que Jésus nous dit que ça, il y pourvoit lui. Et ce qui, au début, est un besoin légitime, si je ne veille pas sur mon cœur, si Christ ne demeure pas entièrement et toujours mon propre trésor, mon trésor, l'objet de mon attention, alors même ce qui est légitime peut m'emmener dans une voie où je décroche dans ma foi avec le Seigneur. Parce que je m'inquiète. Et si je m'inquiète, alors, mais je ne suis plus dans le cadre de la parole de Dieu, parce que Dieu me dit que c'est lui qui pourvoit. Jésus me dit que ça, c'est pas à nous de les chercher. Sous-entendu, ce n'est pas ça qui doit préoccuper mon esprit. Ce qui doit me préoccuper en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas le vêtement, mais c'est le royaume de Dieu. Récemment, on a vécu, pas nous personnellement, mais on accompagne un couple de jeunes, et ils m'appellent, ils sont pas dans la région. C'est un jeune qui m'appelle, il me dit, voilà, ils vont déménager, et vous savez, un déménagement, ça coûte. Et il travaille à Leclerc, et il m'a dit, tu sais, Jonathan, voilà, à Leclerc, pendant la période des fêtes, mon responsable, il m'a proposé de travailler tous les dimanches. Ça m'aiderait pour le déménagement. Ça m'aiderait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas évident. Je suis pas en train de dire que ceux qui travaillent le dimanche, ils sont dans le péché, frère et sœur. Ah, ne dites pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est normal qu'il y ait des médecins, des personnes qui travaillent le dimanche. Maintenant, Dieu nous teste dans nos choix. Dieu regarde si effectivement c'est lui notre trésor. Et si effectivement on a compris ces versets. Si effectivement on a compris que même, et je le dis pour vous bénir, frères et sœurs, même ce qui est légitime, ce n'est pas à nous de nous préoccuper de comment on va faire, parce que Jésus s'est engagé. Si c'est écrit dans la parole, Dieu est lié par sa parole, il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il nous dit que notre Père Céleste sait qu'on en a besoin et qu'il nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire que tout ce qui constitue nos propres besoins, ce n'est plus à nous de nous en préoccuper, c'est notre Père. Nous, on a à s'occuper du royaume, de chercher le royaume, la justice de Dieu, à être dans l'obéissance et à être attentif à ce que Dieu veut que nous puissions faire dans notre vie. Et ce jeune, il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Alors, vous vous doutez bien que je savais quoi lui répondre, puisque je lui ai cité ce texte, Matthieu 6, verset 33. Il dit « Écoute, moi je crois que ça, le Seigneur peut pourvoir. Toi, fais cette expérience. » C'est un jeune qui a un parcours un peu difficile. Il a pris le baptême il y a quelques années, mais il a pris des chemins de traverse. Et c'est comme s'il redécouvrait la parole. Je dis, mais expérimente la parole. Prie, lis, et tu verras. Agis par conviction. Il m'appelle quelques jours après, je l'ai eu au téléphone jeudi. Et il me dit, voilà, tu sais, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai prié, j'ai cherché. Je manque de foi, mais on a eu un repas de famille, tu sais, et avec mon épouse, on a revu de la famille, ça faisait quelque temps qu'on l'avait plus vue. Et ils nous ont donné une enveloppe pour le déménagement. Et dans l'enveloppe, il y a de quoi louer deux camions, payer l'aller-retour et le péage. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Je crois véritablement qu'on peut expérimenter la puissance de Dieu. Je crois que Dieu veut nous amener à comprendre que si c'est lui notre trésor, alors automatiquement, l'inquiétude ne pourra plus s'installer dans notre cœur, parce que Dieu nous dit qu'il est notre Père Céleste. Il connaît nos besoins et c'est lui qui va y répondre. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait quelquefois les faiblesses qu'il peut y avoir dans nos vies. Je suis pas en train de prêcher l'excellence de la vie chrétienne en disant que si vous vous inquiétez, c'est que ça va pas. C'est pas du tout ça. Mais c'est pour vous dire que si jamais il y a l'inquiétude, repensez à ces textes. Mais non, Seigneur, c'est toi mon trésor. Alors je ne veux pas m'inquiéter. Je me souviens de ce couple également au niveau financier. Vous savez, le Seigneur peut nous surprendre. Ils avaient, c'est un couple, le mari, son père venait de décéder et ils avaient un petit terrain et ils devaient régler les frais de notaire pour pouvoir acquérir le terrain. Je ne sais plus. 4 000 euros ou 3 000 à 4 000 euros, il leur manquait. Et ils ont dit, mais Seigneur, comment on fait? On n'a pas de sous. Comment c'est possible? Et voilà, ils priaient. D'un coup, un jour, le téléphone sonne. Ça va? Oui. Une chrétienne qui était à 600 km de chez elle, qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs mois. Ils étaient restés en contact, mais ils ne s'appelaient pas tout le temps. « Dis-moi, est-ce que tu aurais besoin d'argent ?» On aimerait avoir ces coups de téléphone, hein ? Ben oui. Ben écoute, voilà, je te les prête, tu me les rends petit à petit, comme tu peux. Mais vous savez, frères et sœurs, si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit. Le vêtement, le boire, le manger, c'est des choses qui sont simples. Mais nous, on n'a pas à focaliser sur ça. Pour les jeunes, le choix d'un conjoint. Les jeunes, vous n'avez pas à focaliser. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait qui vous aurez besoin, qui sera bien pour vous. Mais si vous recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il y a une promesse qui s'attache à ce verset. Et vous savez, cette promesse, c'est toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est une promesse de la part de Christ. Ça veut dire que Jésus répond à la fois à notre attitude de cœur, à cette attitude ferme, résolue, de dire « Non Seigneur, je ne veux pas travailler pour les trésors sur la terre. Je veux regarder, veiller à comment je regarde la vie chrétienne, comment je regarde la parole. Je veux veiller à ce que ta lumière resplendisse toujours en moi, afin que je puisse vivre ce verset, cette promesse, toutes ces choses. » Vous avez comme moi dans vos Bibles, c'est toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que tout est prévu par Christ. Tout est déjà calculé par Jésus, par notre Dieu, par notre Père, ce qu'on aura besoin, le travail, la maison, le logement. Jésus s'en occupe. Nous, on doit lui faire confiance. J'ai encore quelques minutes. Vous savez, une définition, comment le dictionnaire définit le mot inquiétude? C'est pas le dictionnaire biblique, hein, c'est le dictionnaire Petit Robert, ou je sais pas comment vous l'appelez. La définition de l'inquiétude, c'est état de celui, celle qui bouge, qui est en mouvement. Une autre définition, et là vous allez me voir arriver, faute de repos, agitation, trouble. Ça veut dire que l'inquiétude nous amène à ne plus être dans le repos de la foi. L'inquiétude nous amène à ne plus fixer notre regard sur Christ, sur celui qui est capable de nous soutenir, par son esprit, de nous communiquer les ressources nécessaires dans ce que nous vivons. Le repos, c'est extraordinaire en tant que chrétien. Est-ce que vous vous couchez en paix? Est-ce que vous vous réveillez le matin dans la paix du Seigneur? Est-ce que lorsque vous allez au travail, lorsque vous croisez les uns les autres, vous êtes dans le repos, frères et sœurs? Vous êtes dans la paix. Le monde s'agite, le monde est ébranlé, le monde est en train de se détruire, vous le voyez comme nous. Mais qui, si ce n'est pas les enfants de Dieu, peuvent connaître le repos? Personne, frères et sœurs. Personne. Tout le monde peut connaître l'inquiétude, frères et sœurs, dans le monde. Mais les enfants de Dieu n'ont pas le même héritage que le monde. C'est pas possible. Pour les enfants de Dieu, il y a un héritage divin, céleste, où on est introduit dans toutes les promesses, dans les alliances extraordinaires de notre Dieu. En Jésus-Christ, bien évidemment. Et Dieu a fait alliance avec nous pour que nous puissions vivre dans le repos. Ce qui nous amène à considérer quelquefois combien le diable, l'ennemi de nos âmes, essaye de nous avoir, essaye d'enlever cette paix, essaye d'enlever cette confiance que nous avons en Dieu. Alors on est dans l'inquiétude, alors on cherche en nous-mêmes les propres solutions et on n'est plus dans le repos. Mais je sais que c'est pas ce que vous vivez et c'est on tend vers autre chose. Je crois que de vivre ce verset 33 nous amène à rester dans le repos. Et aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, je crois que c'est la chose la plus importante. Alors, je termine quand même par un texte. Avant de le lire, j'aimerais souligner avec vous ce fait. Vous avez vu que dans ce texte de Matthieu chapitre 6, Jésus va citer quelqu'un. Il va citer quelqu'un. Il va parler de Salomon. Il va nous dire, « Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il s'agit d'Élie. » J'ai voulu m'intéresser, moi, à ça. Pourquoi est-ce que Jésus cite Salomon? Vous savez que Jésus ne cite pas les choses au hasard. Pourquoi il parle de Salomon à ce moment-là? Il aurait pu parler d'autres choses, prendre un autre exemple, ce qu'il a déjà fait à de nombreuses reprises. Et à de nombreuses reprises, il va citer des exemples de la nature, par exemple. Mais je crois que derrière cela, il y a un exemple d'un homme qui s'est positionné pour Dieu au début de sa vie. Et j'aimerais finir avec ce verset. On peut aller le lire, c'est dans 1 Roi, au chapitre 3. C'est des textes que nous connaissons, mais On va les relire pour terminer. Un roi, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 4. Vous y êtes, un roi. Voilà ce qui est écrit. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ça, on aime bien ce verset. Hein. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, on pourrait mettre entre parenthèses, ni le vêtement, ni le manger, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Pour nous, on pourrait dire le royaume et la justice de Dieu. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Et là, c'est la manifestation de l'enseignement que Jésus-Christ va donner des centaines et des centaines d'après. Toutes choses vous seront données. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Je termine juste, tout a été dit. Vous avez vu que c'est quand même intéressant de regarder comment ça se fait dans le Nouveau Testament, que telle personne est citée, parce que je suis convaincu que Jésus-Christ, dans l'exemple qu'il a donné, veut nous faire réfléchir sur quel a été le début de la vie de Salomon. Et on pourrait dire que déjà dans l'Ancien Testament, cette pensée était présente, que si je suis fixé sur Dieu, si je suis fixé sur la justice de Dieu, si je reconnais en moi-même mon besoin incessant de crier à Dieu pour que Dieu me remplisse afin que je puisse œuvrer pour son royaume et sa justice, alors, frères et sœurs, toutes choses nous seront données par-dessus. Et Salomon est l'exemple parfait de cet homme qui était là à la tête du royaume, vous connaissez. Il aurait pu, et Dieu va souligner ce principe, il aurait pu demander la mort de ses ennemis, il aurait pu demander des richesses, il aurait pu demander beaucoup de choses. Mais il aurait manqué le but, frères et sœurs. Ce qui est légitime peut être une occasion de chute si ça devient notre objet d'adoration, notre trésor dans notre vie. Ce qui est légitime, logique dans notre vie, doit rester à sa place. On ne doit pas s'en inquiéter, parce que ça, c'est Christ qui s'en inquiète pour nous, c'est notre Père Céleste. Et Salomon va être fixé sur cette pensée, la sagesse, le discernement. Pour nous, on pourrait dire, chercher comment travailler, chercher le royaume et la justice. Et alors tout, frères et sœurs, tout, je ne sais pas comment le dire d'une autre manière, tout nous sera donné par-dessus. Si on le croit, on le vit. Si on le croit, frères et sœurs, on le vit, on l'expérimente, et c'est ça qui fait grandir notre foi. On prie le Seigneur.